Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la joie. Dans une retraite, il y a des moments difficiles, des fois très difficiles. Mais au fond, toute la structure de la retraite est faite pour ça, pour que nous voyions mieux. Et il y a des moments profondément bon. D'abord, la porte des sens s'ouvre, nous voyons mieux. Je me souviens de retraites où même les bruits dans le hall, où les gens rentraient, sortaient. À un moment donné, quand les sens se purifient, ça devient tellement beau quand il n'y a plus les représentations, quand il y a juste le son. Ici, on a la neige. Le son de la cloche. Chacun a ses ouvertures à la joie. Et c'est vrai qu'on peut juste se le laisser vivre comme ça, mais on peut aussi s'en nourrir et puis remarquer. Il y a la joie des moments où le cœur devient tendre, ouvert, sensible. Les moments où les pensées deviennent tout à coup claires. J'ai l'impression que je comprends, c'est peut-être vrai. Et c'est bon, et c'est important de pas juste le vivre, mais de conscientiser combien c'est appréciable d'avoir un moment de compassion, un moment. Des fois, ça me fait ça quand je sens tout le monde dans la salle, de vraie solidarité, de vraie kalyanamita, des vrais amis spirituels, ensemble, dans cette. Quête qui n'est pas si facile, hein, je sais bien. La joie, elle est souvent là. Mais nous oublions de la conscientiser. C'est un peu une tendance de la nature humaine. Si on faisait des journaux où on écrivait tout ce qui va bien, peut-être que personne ne les achèterait. Parce qu'il y a une espèce d'intérêt pour ce qui ne va pas. Et c'est un peu triste parce que on peut le voir dans l'exercice de la méditation, combien nous pouvons focaliser même sur une douleur qui serait, franchement, si je regardais un film à la télé, peut-être je ne la remarquerais même pas. Mais comme je m'ennuie un peu, alors la douleur devient tellement forte, et puis il n'y a plus que ça, et puis on oublie de voir qu'il y a tellement de choses qui vont bien dans le corps, que... Et ce qu'il ne faut pas oublier, je profite pour juste le rajouter là, c'est que les douleurs physiques sont très souvent des douleurs psychiques qui se mettent dans le corps. Et ça n'est pas forcément utile de chercher le pourquoi du comment, quand j'ai ça, voilà que ça vient. Non, c'est pas ça. Mais quand le Bouddha dit que les douleurs, toute maladie et toute douleur, c'est du karma qui s'exprime dans l'instant, lorsque nous apprenons à être avec la douleur, à endurer avec bienveillance, avec compassion, le travail se fait. Il se fait sur la douleur, mais par rapport à des aspects émotionnels. Il y a un lien. Parce que le processus de libération peut autant se faire au niveau physique qu'au niveau psychique. Je me souviens la dernière retraite que j'ai faite avec Tissara Je ne sais plus pourquoi, je m'étais assis longtemps. Puis j'avais mal aux fesses, horrible, horrible. Et puis voilà qu'on chantait. Alors voilà, Tissara a dit, ben, vous pouvez prendre les chants. Je n'ai pas bougé, hein, mais pas d'un iota. J'ai peut-être fait ça. Puis on a chanté. Et puis après, c'était un beau silence. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus une douleur, rien du tout. Je me suis dit, mince, toi, est-ce que j'arrive à la créer? Mais je ne pouvais pas, hein. C'était fini. Elle vient d'où cette douleur? C'est quoi ça? Est-ce que c'est vraiment les fesses qui restent trop longtemps sur la chaise? En tout cas, là, c'était étonnant. Donc, nous pouvons, par la pensée, nous souvenir d'être dans la joie. Et c'est vrai que nous avons un karma exceptionnel. Aujourd'hui, ça doit être encore différent, parce que j'avais lu ça il y a longtemps. C'est 8 personnes sur 100 sur cette planète qui peuvent ouvrir leur frigo et choisir ce qu'elles veulent manger à l'intérieur. Les autres, je crois que 20% réussissent à avoir suffisamment à manger, un bon repas par jour. Mais tous les autres, ils sont en quête de nourriture. Ça m'avait touchée, dans le sens de conscientiser quand même. Hein. Nous avons un bon karma à beaucoup de niveaux. Non seulement pas de famine, mais pas de guerre. Pas trop d'injustice, en tout cas pas encore. Un système de santé qui, on se demande où il va, mais disons jusqu'à présent il fonctionnait. Nous avons du travail, nous avons des familles, nous avons une maison. Nous avons un corps-esprit à peu près bon, peut-être pas parfait, mais enfin, ça va. Et nous avons le Dharma. Nous avons cette possibilité qui est peut-être la plus précieuse de toutes en termes de karma, d'entendre. Juste de savoir être touché, que ça résonne, cette possibilité d'éveil à l'intérieur. Et puis ici, ce que nous avons et qui est un luxe incroyable, c'est le temps. Souvent quand je suis chez moi, je me dis, oh, le temps, mais quel luxe. Alors, pour stimuler la joie, nous pouvons juste imaginer le contraire de ce que nous avons maintenant, qui existe pour tellement de personnes. Il y a la joie de l'instant. Je ne sais pas si vous l'avez maintenant. C'est rien de très spécial. C'est juste cette conscience ouverte qui a l'impression que c'est assez, quoi. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Ça va. Ça va. C'est bon. Je vous lis une petite parole de Kabir qui dit « Ami, dis-moi s'il te plaît, que puis-je faire dans ce monde auquel je m'accroche et que je fais traîner en longueur? J'ai renoncé aux beaux habits pour porter une bure, mais j'ai remarqué un jour que l'étoffe était magnifiquement tissée. Alors j'ai acheté des haillons, mais j'arrangeais légèrement le tissu sur mon épaule gauche. J'ai contenu mes envies sexuelles et maintenant je vois que je suis sans cesse en colère. J'ai abandonné ma rage, mais voilà que je constate que j'ai envie de manger toute la journée. J'ai travaillé dur pour lâcher ma gourmandise. Maintenant, je suis fière de moi. Quand l'esprit essaye de casser son attache au monde, il s'accroche pourtant à quelque chose. La peur dit « Donne-moi des symboles, donne-moi des images toutes faites, donne-moi quelque chose sur quoi compter. » L'amour et la vérité disent « Donne-moi seulement cet instant. » La joie de l'instant. C'est peut-être la plus belle. Et puis, finalement, que ce soit chez nous ou dans une retraite, il y a cette joie spirituelle de savoir reconnaître quand il y a un facteur de l'éveil. Souvent, quand ça ne va pas trop bien, que c'est un peu coussi-coussa, alors je vois que rien que c'est coussi-coussa, mais ce que je ne vois pas, mais il y a la pleine conscience. Je sais que c'est aussi que ça. J'avais une bonne concentration, voilà qu'elle passe. Oh. Qu'est-ce que j'ai là dont je peux me réjouir? Ça peut être l'équanimité. Ok, la concentration passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Comment je peux me réjouir de l'instant maintenant? Et pour trouver cette joie de l'instant, la questionner, on peut aussi conscientiser « Ah ben là, la pensée est vraiment au service du Dharma. Je suis dans l'investigation. Je ne suis pas dans le désir d'assouvir un besoin. C'est autre chose et je reconnais la différence de qualité. » Nous pouvons peut-être aussi remarquer comment l'énergie change. Peut-être qu'au début de la retraite, quand la cloche sonne, ça m'embête un peu de me lever, ou ça m'embête de retourner m'asseoir. Et puis peu à peu, ça sonne, je vais, ça sonne, je fais. Ça devient une danse simple, une obéissance une obéissance sans aucun devoir, une obéissance parce que c'est tellement bien de lâcher mes envies, c'est tellement bien de plus rien avoir à décider, il n'y a rien qui fait plus de bien finalement que d'arrêter toujours fonctionner sur ce sens du moi qui veut ou qui ne veut pas. Et alors l'énergie, on peut sentir l'énergie qui vient. Et la joie, pitié, la joie spirituelle qui remplit le corps. Alors, là, pas là, nous conscientisons, nous amenons, nous nommons. Le fait de nommer, au fond, crée l'énergie bénéfique. Si je la laisse juste être, sans la nommer, toute la nourriture qu'elle peut m'apporter est diminuée, est affaiblie. Et c'est vrai qu'on s'habitue aussi dans une retraite. Est-ce que ça aille mieux? Ça va mieux, ouais, ça va mieux, ça va mieux. Et on oublie de remarquer, ah, mais quand même, c'est bon, là. Donc, nous pouvons questionner quelle est l'expérience aussi en termes de ces facteurs de l'éveil. Puis, il y a une joie qui est peut-être la plus délicieuse. Je devrais en parler à la fin, mais je parlerai après de mudita. Ça, c'est la joie qui s'éveille lorsque nous comprenons dukkha. Quand l'expérience devient douloureuse et que tout le corps s'ouvre, qu'il y a un abandon total de la réactivité. C'est ce retournement où ça n'est plus le monde conditionné, ça n'est plus l'expérience qui est prioritaire, c'est le dharma. Je laisse venir, je laisse faire, où je coexiste en paix, chacun trouve les mots, les manières de le dire. C'est un refuge, Claire parlait du refuge hier. Le refuge, lorsque l'expérience est bonne, il est simple. C'est facile de prendre refuge quand tout va bien. Il y a des refuges plus délicats. C'est celui qui fait que je respecte, je m'ouvre à l'instant lorsqu'il est douloureux. Et c'est le message de toutes les traditions spirituelles. Alors nous nous ouvrons à la joie avec les obstacles. Comment est-ce que je peux être en joie? C'est un peu beaucoup dire en joie, mais disons en vraie ouverture. Je me souviens d'un moment où je faisais une retraite zen et puis j'ai eu une forte attaque de agitation. Ah, j'étais toute surprise. Je fais quoi? Ah, je t'aime. Et ça lâche. Alors que si je me mets, l'agitation qui revient, je nourris. Et c'est la même chose avec le mépris, avec l'orgueil. On n'aime pas tellement être vaniteux, orgueilleux, méprisant des autres. Mais ouvrir, jouer avec, en conscience. Bien sûr, il ne s'agit pas d'identifier. Je vous lis une parole de Sainte Thérèse de Lisieux. Appuyée sans aucun appui, sans lumière et dans les ténèbres, je vais me consumant d'amour. L'amour, j'en ai l'expérience. Du bien, du mal qu'il trouve en moi, sait profiter. Quelle puissance! Il transforme mon âme en soi. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Et pour que cette qualité de libération, en fait il y a totale libération lorsque le corps et l'esprit peuvent faire ça, se développe, nous avons la pleine conscience, nous apprenons à observer, juste observer, nommer, reconnaître, ouvrir, accepter et si possible aimer, parce que c'est très efficace.
peut être un peu malin des fois avec le moi.
Et alors peu à peu, ben, nous savons que la joie ne peut pas m'être enlevée parce que nous savons que l'éveil est à l'intérieur. Et toute cette impermanence perd de son pouvoir d'enchantement, de culpabilité. C'est nous qui donnons ce pouvoir-là, c'est dingue. Parce qu'on est mal pour se faire souffrir. Et la joie peut se glisser quand nous apprenons à comprendre le processus, le qui suis-je. La joie peut se glisser dans cet intérêt pour voir comment ça se passe. L'autre jour, je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous donne un exemple, je l'ai donné à René en dialogue conscient, parce que c'était intéressant. Ça vous intéresse ? Je marchais sur la route et puis le matin, puis il y a toujours les voitures qui montent avec la boye à lait. Et puis c'est les paysans, c'est Monsieur Pochon et puis Monsieur Bergman. Et puis voilà, je fais un petit coucou. Puis voilà qu'un matin, je fais mon petit coucou, puis il m'a semblé qu'il n'y avait pas de coucou en retour. Alors, contact, ressenti. Et j'ai vu comment ça partait dans le passé. On a eu des problèmes avec un des paysans au mois de juillet. Pas grave, mais quand même. Et puis ce qui venait, c'était « Oh là là, ils vont plus nous aimer, on va plus être bien vus dans la vallée. » Puis je voyais les constructions, ça construisait, mais l'inquiétude était là, la pleine conscience était là. Et puis ça continuait, je faisais ma marche. Puis pour finir, j'en suis arrivée à faire une fondue. On va organiser une fondue avec tous les paysans de la vallée. Et je trouvais dingue tout d'un coup, mais il y avait une joie de voir ce chouchou, comment ce moi, juste parce qu'il croit, il n'était même pas sûr, il croit que le paysan n'a pas fait ça. Il était en train d'organiser une fondue à Mondita avec tous les paysans de la vallée. Mais c'était intéressant de voir cet immense besoin d'harmonie, cet immense besoin de se sentir accepté, reconnu. C'est dur quand l'autre nous méprise, nous déteste. C'est dur pour le moi. C'est difficile d'être en joie quand l'autre nous trouve franchement nul. Et c'est tellement important de s'ouvrir à ça. L'autre est un ange noir dans ces moments-là. Je vous lis encore juste une petite parole de Suchito qui dit « Savoir rester avec le difficile donne une force plus vive et joyeuse que n'importe quoi. » N'ayons aucun doute dans la valeur de laisser être l'instant. Avec, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas, ça n'est pas quelque chose à manipuler, à organiser. Nous pouvons organiser nos vies, nous pouvons organiser une recette de cuisine, mais nous ne pouvons pas organiser le fonctionnement d'une retraite à l'intérieur. C'est quelque chose qui nous échappe. Donc, que ce soit dans l'assise ou dans nos vies, nous pouvons voir comment il y a parfois l'espace, le discernement, la bienveillance, la clarté. Et comment des fois, il y a le contraire, confusion, stress, fermeture. Et cette opacité où tout d'un coup, j'ai l'impression que je ne vois plus rien, je suis perdue. Et questionner, est-ce que je peux avoir la joie autant à un moment qu'à l'autre? La dernière fois que je suis venue vous enseigner, c'était intéressant au début, parce que je suis venue m'asseoir là, puis j'étais complètement insécure. D'ailleurs, avant de venir, j'avais encore pris 2-3 papiers, je me disais, ce que je vais leur dire. Et puis j'arrive là, complètement insécure, Et puis, à un moment donné, ça s'est tourné. À un moment donné, ça a fait, oh, ouais, t'es complètement insécure. Oh. C'était tellement bon de pouvoir offrir quelque chose sans aucune sécurité. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une sécurité? Qu'est-ce que je cherche à protéger? Et puis il y a mudita, c'est la joie pour le bonheur des autres. J'ai réfléchi à ce mudita parce que pour pouvoir vraiment avoir la joie pour le bonheur des autres, il faut avoir une certaine solidité à l'intérieur. Autrement, la jalousie émerge, la comparaison, la peur d'être moins bien, de ne pas être assez. Cette peur, c'est de l'orgueil. Nous avons cet orgueil qui est une espèce de système de défense contre la non-existence. Nous avons terriblement peur de n'être rien. Et bien sûr, il y a un discernement dans cette peur, parce que nous ne voulons pas tomber dans la dépression, nous voulons nous ouvrir avec joie au lâcher prise, ce qui est autre chose. Donc, ce que nous pouvons faire pour renforcer cette confiance qui nous ouvre à la joie pour l'autre, c'est de bien observer cet orgueil quand il émerge. Quand je me sens complètement nulle, c'est Arlène qui partageait à midi et demi. C'est comment quand je me sens complètement nulle? Est-ce que j'ose aller y voir? Et je peux aller y voir pour autant que j'ai travaillé la conscience. Il y a un équilibre entre l'incarnation, je dirais, le développement de la conscience à l'intérieur du corps et de l'esprit, et la capacité à s'ouvrir à ces énergies qui sont extrêmement, c'est un défi énorme d'oser échouer, d'oser être blâmé et de ne pas mourir. Nous pouvons mourir quand l'autre nous rejette. Et bien sûr, si nous mourons quand l'autre nous rejette, nous nous en fichons pas mal que les autres meurent lorsqu'on est génial. Ça va ensemble. nous pouvons voir l'impact de la pleine conscience sur le corps et l'esprit dans une retraite, quand nous sentons cette joie qui s'ouvre. Quand nous sentons de plus en plus, comme une évidence que nous avons l'éveil en nous, que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, et que lorsque nous avons l'impression d'être perdus, le Dharma nous porte, nous pouvons oser nous laisser perdre. Ça n'est qu'une impression. C'est le monde des perceptions. Ah, j'ai perdu. Ok. Avant de prendre refuge, je ne prends pas refuge pour vite m'accrocher. Je me laisse juste perdre un moment. Je sais que j'ai le refuge et je peux prendre refuge pour sécuriser ou pour sentir que je tiens un fil rouge et que je ne tombe pas. Donc c'est aussi bon pour développer la joie gratuite, de temps en temps de se souvenir que franchement, nous ne savons pas l'impact de cette retraite dans notre vie. Il y en aura un. Nous ne savons pas comment va aller le monde. C'est important pour que nous gardions la joie pour le monde, de voir aussi comment les civilisations changent et comment tout ce qui se passe à l'intérieur se passe aussi à l'extérieur. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça, de voir comment il y avait l'Inquisition, il y a eu la Renaissance. Aujourd'hui on dit « Oh, l'Inquisition horrible, ah, la Renaissance !» Mais il n'y aurait pas eu la Renaissance sans l'Inquisition. Après, la terreur. Horrible, hein, c'est horrible. L'homme est d'une cruauté abyssale. Et il est d'une beauté infinie. Mais il y a ces changements. Et c'est important de pouvoir questionner et chercher comment maintenir la joie. C'est sûr que le Covid va être un tournant extrêmement puissant dans l'histoire de l'humanité. Et probablement qu'avec cette masse d'aveuglement qui émerge là, le contre-pouvoir lié à l'âme de conscience va être puissant. Quelque chose va s'élever. Et c'est à ça que nous avons à contribuer. Ça n'est pas à ce monde de la peur. Claire en parlait hier très bien. C'est une société malade. Que toute une société qui se résigne à se faire petit et à attendre qu'on la sauve. Et c'est intéressant, les moi-groupes. Maintenant, on est dans un moi-groupe. Ils sont plus délicats que les moi personnels parce que nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin des uns des autres. Il y a un respect à avoir aussi des différences. Alors, nous pouvons faire confiance que les choses se passent comme elles doivent se passer et qu'il y a une cohérence qui nous échappe.
dans la loi de cause à effet, dans notre nature humaine, quelque chose nous échappe. Et le savoir et être en paix avec ça, c'est une manière de rester dans la joie. Il n'aurait pas écrit un très beau poème qui s'appelle « Les joies de l'incertitude ». C'était il y a, je ne sais pas, il n'aurait pas, c'était en quelle année ? En tout cas, 1500 ans, au moins. Eh bien, c'était déjà là. Je vais finir avec une petite parole toute simple. Est très jolie sur cette joie maudita, puisque c'est le nom de notre association, ce bonheur pour le bonheur des autres, cette joie pour la joie d'autrui. Le Bouddha demande à Anuruddha, qui vit en solitude avec trois compagnons. J'espère, Anuruddha, que vous vivez en concorde, en appréciation mutuelle, sans dispute, vous harmonisons comme le lait et l'eau, vous considérant les uns les autres avec bonté. Oui, vénérable, nous vivons comme tu le dis. Et Anuruddha, alors comment faites-vous? Eh bien, vénérable, je pense comme ça. C'est un bénéfice pour moi de vivre avec mes compagnons. Je maintiens donc des actes de bienveillance envers eux, ouvertement et en privé. Je maintiens des paroles de bienveillance envers eux, ouvertement et en privé. Je maintiens des pensées de bienveillance envers eux. Je me dis, pourquoi ne pas mettre de côté ce que je veux faire et faire ce que mes compagnons veulent? Alors, je mets de côté ce que je veux faire et je fais ce que mes compagnons veulent faire. Nous sommes différents dans nos corps, mais un dans nos esprits.